ou indien, en diaspora, aux États-Unis, en Inde et au Pakistan.
Non, toi, okay. C'est pas grave. En fait, les Pakistanais,
oui, les Pakistanais
aux États-Unis.
Voilà,
j'ai pas. Bon. Voilà. Donc, en fait, bon, je vais parler aussi de façon plus, plus générale des sujets asiatiques aux États-Unis, à New York tout particulièrement, parce que c'est un sujet assez, pas d'Aurélie, mais des autres souvent assez mal connus. Alors, j'ai choisi quand même comme petit directeur, bon, de façon très simple, hein, c'est pas un exposé théorique, l'articulation entre intégration et visibilité. L'intégration, je définis comme une participation à la vie économique, sociale, politique. Il ne s'agit donc pas d'acculturation. Hein, c'est pas, et pour ce qui est de la visibilité, alors j'ai pas eu le temps en fait hein, de travailler le concept. Parce que bon, voilà. Mais je me suis aperçue, en regardant sur Internet hier, qu'en mai 2008, il y a eu un colloque sur la visibilité qui s'appelait voir et être vu, l'injonction de visibilité dans les sociétés contemporaines. Donc en fait, ça peut vraiment être un vrai concept intéressant, et je pense qu'il peut l'être pour l'étude des populations migrantes diasporiques. Il y avait des séances qui portaient sur les expériences et les stratégies contemporaines de visibilité, sur visibilité et marginalité, se rendre visible pour exister. Après, je ne sais pas ce que ça contenait exactement, mais je pense que vraiment, voilà, ça peut être intéressant pour des populations, des types de populations migrantes. Et parce qu'il s'agit en fait vraiment des populations qui doivent être suffisamment visibles pour exister économiquement, socialement, politiquement, mais sans trop l'être non plus, parce que là, il pourrait être victime de discrimination. Hein, c'est vraiment cette articulation complexe qui est... l'ultime enjeu des populations étant bien sûr l'acceptation par la société d'accueil. Hein, si ça reste ça, voilà. Et cette visibilité, surtout lorsqu'elle est revendiquée, peut impliquer des ajustements, des négociations, des contestations internes, externes à la communauté, etc. J'y reviendrai à travers des exemples précis. Mais surtout, il faut garder à l'esprit le contexte spécifique américain, avec un régime de citoyenneté particulier, multiculturalisme, etc. Et une officialisation de la division de la société en groupes ethniques par le biais des recensements, par exemple. Donc c'est quand même une situation très différente de la France. Hein. C'est pas du tout les mêmes logiques. Et donc ça encourage une politics of visibility, si vous voulez. D'autre part, par sud-asiatique, j'entends exclusivement les Indiens, les Pakistanais et les Bangladeshis. Je ne parlerai donc pas des Népalais ni des Sri Lankais, désolé. ils sont peu nombreux. Hein. alors, je commencerai par un historique de la présence indienne aux États-Unis. Je trouve que c'est une période vraiment intéressante. J'aborderai ensuite la période contemporaine à travers les profils démographiques et économiques. Et ensuite, je parlerai donc de ce quartier particulier à New York, Jackson Heights, et d'une parade et des parades ethniques à New York, comme l'investissement de l'espace, l'électricité, etc. Alors, historiquement, pour l'historique, je dirais que c'est une espèce de visibilité à corps défendant. Hein, ça, je vais expliquer ça, mais bon. Historiquement, on distingue deux grandes phases dans l'immigration des Sud-Asiatiques, enfin des Indiens à l'époque, hein, aux États-Unis, le début du XXe siècle, qui comprend essentiellement des populations Punjabi, et essentiellement des paysans Punjabi, qui vont résider sur la côte ouest des États-Unis, donc c'est quelque chose de bien focalisé, et en Californie tout particulièrement. Hein, c'est une population particulière des paysans Punjabi sur la côte ouest des États-Unis. Ça, c'est donc la toute première vague. Et c'est une vague qui comprend essentiellement des Sikhs, 85 à 90% de Sikhs, hein, donc c'est une écrasante majorité de Sikhs, un petit pourcentage de musulmans, et vraiment une poignée d'hindous. Et on verra que c'est intéressant. Alors, c'est une immigration bon, qui s'est effectuée pour des raisons économiques, avec, bon, c'est une époque marquée par l'explosion démographique, la pénurie de terres, la sécheresse, tout cela ayant affaibli, ruiné beaucoup de Punjabis à la fin du 19e. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont, on peut se demander comment ils sont informés des possibilités à cette époque d'émigration, parce que ça va pas de soi. En fait, c'est souvent en contact, par le contact avec des militaires américains ou canadiens, en garnison à Hong Kong par exemple, et qui seront en contact avec des soldats Punjabis, des soldats sikhs. Ce qui explique aussi pourquoi il y a cette population sikh tout particulièrement. La majorité sont donc des paysans Punjabis illettrés. Et donc, bon, l'immigration apparaît comme une façon d'élever le statut social de la famille plus ancienne, etc. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien de très original. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une immigration à cette époque-là qui s'est faite en tant que travailleur libre. Ce qui n'était pas, alors que c'est une époque d'émigration, de travailleurs sous contrat, etc. Hein, là, c'est vraiment en tant que travailleur libre. D'autre part, c'est une immigration qui est exclusivement, pratiquement masculine, avec bon, les émigrants laissant leur épouse sur place, ils sont mariés, sinon ce sont des célibataires. Alors, il y a quelques étudiants et réfugiés politiques qui émigrent également à cette époque-là et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire américain, mais la majorité, c'est vraiment ces paysans punjabis. Qui vont commencer en fait à travailler dans les villes parce que de la côte ouest des États-Unis, c'est une époque où l'industrie du bois et des chemins de fer a besoin de main-d'œuvre et donc de main-d'œuvre à bon marché et donc ils recrutent voilà, ce type de population. Alors c'est une époque, et là c'est là que j'en viens à cette visibilité à corps descendant, c'est une époque où les ouvriers blancs, pour reprendre la terminologie américaine, sont en train de lutter pour la défense de leurs droits. Ils sont mécontents de voir des populations étrangères, enfin voilà, étrangères, arriver, migrantes, et qui travaillent pour des salaires peu élevés. D'accord ? Donc on a des ouvriers blancs en train de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui subissent aussi l'influence du courant nativiste. Et donc ils reprochent aux Asiatiques en particulier, donc c'est pas seulement les Indiens, aux Chinois, aux Japonais et aux Indiens, de leur faire une concurrence déloyale en acceptant de bas salaires. Donc en fait, les Indiens vont arriver dans un contexte de violence contre les Asiatiques. Hein, c'est une période marquée par la violence et ils sont en fait très mal accueillis par les Américains. C'est quelque chose qu'on ignore assez généralement, mais l'accueil est des plus hostiles. Avec d'abord une discrimination en termes d'espace, ça a des effets sur leur occupation de l'espace, puisque dans les villes, on leur interdit l'accès à la plupart des logements, ce qui veut dire qu'ils doivent s'entasser dans des tentes, dans des logements temporaires, etc. Et entre 1909 et 1917, une campagne très féroce va s'engager à l'initiative de Legion Exclusion League, qui est composée surtout de syndicalistes, et une campagne en faveur de l'expulsion des Asiatiques, et des Indiens y compris. D'abord, ce sont les employeurs qui vont commencer le mouvement. Ensuite, ils sont rejoints par la presse locale, qui va prendre le relais, et qui va vraiment créer à travers ces articles la psychose de l'invasion des Hindous. Bonjour. L'invasion des Hindous, dans les médias de cette façon-là. Et donc la presse prend crée cette thèse de psychose. Et dès cette époque, en fait, tous les Indiens répondent à l'appellation de hindous, alors qu'ils sont à 90% sikhs et qu'il y a vraiment quelques musulmans et une poignée d'hindous. Hein, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui militent en faveur de l'exclusion des Indiens, le terme « hindous » a une connotation péjorative, qui est équivalente à la connotation, au terme passé aujourd'hui en Angleterre, par exemple. Ah, c'est l'ironie de l'histoire. Hein. C'est Windows, là, considéré comme une catégorie négative et utilisé comme avec une connotation péjorative aux États-Unis à cette époque-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la question de la visibilité, la visibilité n'est pas du tout recherchée ici. Elle est au contraire. En fait, les Indiens sont arrivés à un moment donc, d'hostilité contre les Asiatiques, et cette hostilité s'est déplacée des Chinois et des Japonais vers les Indiens, parce que les Indiens sont beaucoup plus visibles physiquement, portant en raison de la barbe et du turban. Ça les différencie tellement physiquement que l'hostilité va vraiment se focaliser contre eux. Et la presse locale va parler de l'invasion de la marée des turbans, enfin, vous voyez ce genre d'articles et d'expressions. On a donc une visibilité des sites dans l'espace américain à leur corps défendant, au sens premier et au second du terme. D'une part parce que la visibilité n'est pas recherchée, et parce que les sites sont physiquement pris pour d'autres. Et ça, c'est le cas pendant toute l'histoire de l'immigration aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, enfin, ils sont pris pour des hindous. Au moment de la révolution iranienne en 1979, ils sont pris pour des ayatollahs. Après le 11 septembre en 2001, ils sont pris pour des musulmans. Et à chaque fois, victimes de discrimination, voire de violence. Hein. C'est un cas très particulier de visibilité comme ça, mais qui leur porte préjudice. Alors bon, pour finir sur ce bref historique, à partir de 1908, les fonctionnaires américains de la côte ouest vont commencer vraiment à rejeter les demandes d'admission des Indiens en s'appuyant sur des raisons du type maladie contagieuse, polygamie, charge publique, etc. Et un fonctionnaire américain va même déclarer que les Indiens sont les plus indésirables et les moins assimilables de tous les immigrants admis jusque-là sur le territoire américain. Hein, ça va quand même assez loin dans la discrimination et dans l'ostracisme à l'encontre des Indiens aux États-Unis à cette époque-là. Et qui présente un contraste par rapport à la période contemporaine, avec tout un discours sur les Indiens, minorité modèle, etc. Hein, donc là, on voit que historiquement, c'est pas qu'il y a quand même un décalage. D'autre part, alors donc, bon, donc l'exclusion des Indiens est recommandée, et finalement, l'immigration des Indiens va prendre fin en 1917, officiellement. Voilà, bon, après, les choses vont se débloquer à partir de 1946, petit à petit, et c'est seulement après 1965 que les Indiens et les autres Sud-Asiatiques vont émigrer de façon significative. Alors, juste dire, pour signaler pour ceux que ça intéresserait, c'est que à cette époque-là, un certain nombre de ces personnes ne sont pas forcément rentrées chez elles. Elles se sont installées dans les zones rurales de Californie, où là, elles ont eu un certain succès, parce que ce sont des paysans à l'origine. Et donc, bon, ils ont pu développer l'agriculture, etc. Et ils n'avaient pas le droit, en vertu des lois locales, d'épouser des femmes blanches. Et donc, ils ont épousé des femmes hispaniques. Et il y a cette communauté biethnique bien particulière qui s'est créée, enfin, voilà, de femmes mexicaines, d'hommes punjabis, avec des enfants qu'on nommait les Mexidous, Mexican Hindus. Voilà. C'est vraiment, je trouve, une période très intéressante, très riche, qui mérite vraiment. Il y a le livre de Karen Menes qui parle très en détail de cette population de Mexican Indians. Alors, autre point intéressant pour vraiment finir avec cette partie, hein, c'est que bon, d'un côté, les Indiens donc ont un accès limité à l'espace, à travers le logement, le fait qu'ils n'ont pas le droit d'acheter des terres non plus. Donc interdit d'accès à la propriété foncière. Mais en même temps, c'est une époque déjà où les Indiens construisent les édifices religieux. Et donc, par exemple, le tout premier Gurdwara a été créé dès 1912 à Stockton, en Californie du Sud. Et donc, on a vraiment un marquage du territoire, une visibilité à travers les édifices religieux, avec un prolongement dans la période contemporaine. On a une véritable frénésie de la construction d'édifices religieux aux États-Unis. Hein. C'est vraiment la concurrence entre groupes religieux pour bien marquer sa présence, sa visibilité, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je trouvais qu'il fallait quand même le mentionner. Voilà. Donc, là, j'aborderai la période contemporaine qui démarre officiellement en 1965, qui est la date de libéralisation de la politique américaine en matière d'immigration. Alors, c'est intéressant de voir qu'on ne dispose pas de chiffres très précis sur les Indiens dans les années 60 et 70, parce que jusque-là, ils étaient classés dans la catégorie « autre » du recensement américain, et donc étaient considérés comme des Blancs, des Caucasians. Et depuis le recensement de 80, les Indiens ont obtenu une classification à part entière en tant que « Asian Indian ». Voilà, « Asian Indian », à l'intérieur du recensement américain, à partir de 1980. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu faire une lobbying pour faire partie, pour avoir sa catégorie à part dans le recensement américain. Hein, ça, c'est aussi des questions de politique sur visibility, de faire les démarches, de faire du lobbying pour se retrouver officiellement dans le recensement. Alors les Pakistanais et Bangladeshis, eux, n'ont pas fait de lobbying, en tout cas ça n'a pas marché, et donc eux continuent d'être classés dans la catégorie autre. Et du coup on a aussi beaucoup moins de chiffres les concernant, on en a mais moins que pour les Indiens. Et l'intérêt pour les Indiens était essentiellement de l'accessibilité, l'intérêt d'avoir son groupe ethnique est économique. Hein, ça permet de d'entrer dans les quotas réservés au groupe ethnique, etc. Lorsqu'on demande lorsqu'on postule pour un poste. C'est ça la logique. Et en même temps, bon, c'est intéressant de voir une volonté de visibilité, de reconnaissance par la société d'installation, mais en même temps un exemple d'affirmation de son existence par une catégorie ethno-nationale qui en même temps est adaptée au contexte local. Asian Indian, hein, c'est pour être différencié des Amérindiens. Alors, les Indiens représentent une des minorités ethniques à la croissance la plus rapide. Aux États-Unis. Je donne juste quelques chiffres pour que vous ayez une idée. En 1980, ils sont sont pratiquement 400 000, ils sont 387 000. Bon. En 1990, 815 000, donc c'est double. En 2000, ils sont 1,7 million. Et aujourd'hui, ils sont à peu près estimés à 1,9 million, 2 millions. Enfin, on est passé donc de 300 000 à 300-400 000, à pratiquement 2 millions aujourd'hui. C'est une croissance exponentielle, 400% en 27 ans. Et pour ce qui est des Pakistanais, ils étaient estimés à 40 000 en 1980, 75 000 en 1985 et 93 000 en 1990. Je n'avais pas les chiffres sous la main, mais... Il me semble que pour le recensement de 2000, c'était aux alentours de 130 000. Mais je pense que c'est un chiffre qui est en deçà de la réalité et qui sont plutôt 500 000 aux États-Unis. C'est à peu près les chiffres qui circulent quand on va voir l'ambassade ou les associations, etc. Plutôt de 500 000. Et pour les Bangladeshis, ils sont estimés aujourd'hui à 100 000 environ. Voilà. Hein, ça fait donc quand même beaucoup moins nombreux que les Indiens. La majorité des Indiens viennent directement de l'Inde et de deux États en particulier, le Punjab et le Gujarat. C'est pas hasard, c'est vraiment les deux États traditionnellement pourvoyeurs de migrants. Et il y a aussi une population assez importante de Malayali, d'infirmières qui ont migré aux États-Unis. Après, bon, les États-Unis sont un microcosme, hein, de l'Inde. Et on a des populations originaires à peu près de tous les États, de tous les États indiens, des populations de tous les groupes religieux, etc. Alors, groupes religieux, sauf qu'il y a une surreprésentation par rapport à leurs chiffres en Inde, des sikhs et des chrétiens. Par exemple, les sikhs sont estimés à 10% aux États-Unis, alors qu'ils ne sont que 2% en Inde. Et je crois que les chrétiens estiment à 5-6%, alors qu'ils ne sont que également 2% en Inde. Hein. Voilà, à ce niveau-là, il y a cette. Mais bon, parce que ce sont des populations traditionnellement migrantes, hein, il y a une histoire de migration, etc. Alors, je disais qu'une partie, donc la majorité vient directement d'Inde, mais il y a aussi une proportion non négligeable de ce qu'on appelle les twice et thrice migrants, hein, ceux qui sont passés par l'Afrique orientale. Et ensuite qu'on migrait aux États-Unis. Et puis aussi les thrice migrants, ceux qui sont pu passer par l'Afrique orientale, l'Angleterre, et ensuite les États-Unis. Je ne sais pas, j'espère que vous avez vu les sites qui m'a fait là. Bon, c'est pas grave. De Milanais. Et voilà, c'est un film sur une famille. Ici du Rwanda, il se retrouve dans le Mississippi, dans un hôtel. Enfin, voilà, c'est assez, enfin bon, c'est assez cliché, mais c'est un film que je trouve enfin, très intéressant. Voilà. Alors les Pakistanais, ils viennent principalement des grandes villes, et là aussi c'est intéressant de voir le décalage dans les proportions. Le pourcentage de Punjabi est à peu près respecté, hein, c'est la moitié. Mais les Mohajirs, les Indiens qui ont migré au Pakistan après la partition, ne représentent que 8% au Pakistan, mais 30% à peu près aux États-Unis. Parce que ce sont des populations qui sont urbanisées, instruites, et qui forment donc le profil, on va dire, pour de l'expatriation aux États-Unis. Donc, sur représentation des Mohajirs dans la diaspora, par rapport à leur proportion au Pakistan. Et puis, alors les Bangladeshis, bon là c'est pareil, hein, beaucoup sont originaires des grandes métropoles, que ce soit Dhaka ou Chittagong. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que beaucoup sont originaires de la région de Sylhet. Et là aussi, on a une forte tradition des Indiens. Les fameux cuisiniers de Sylhet, les vaisseaux Bangladeshis appelés officiellement indiens, etc. Alors d'un point de vue géographique, hein, ils sont répartis essentiellement en Californie, à New York, New Jersey, Illinois. Hein, c'est ça, c'est les états de répartition et Texas, des Sud-Asiatiques. Alors j'en viens, avant de passer, j'en viens quand même rapidement aux facteurs qui ont poussé les Sud-Asiatiques à émigrer aux États-Unis à cette époque-là. Hein, et même, alors, d'abord, la libéralisation de la politique américaine en matière d'immigration coïncide avec le durcissement de la politique britannique en matière d'immigration. Ce qui veut dire que des populations éduquées qui seraient potentiellement allées en Angleterre vont se tourner vers les États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est une coïncidence dans le temps. Et en fait, donc, la majorité des étudiants asiatiques ont été attirés par les possibilités d'enrichissement, des conditions de travail, etc., aux États-Unis. Hein, c'est ça vraiment les facteurs qui les intéressent. C'est une période, les années 60-70, où les États-Unis manquent de médecins, notamment. Hein, d'où le nombre très élevé de médecins aux États-Unis. C'est la guerre du Golfe, c'est la guerre du Vietnam, c'est la mauvaise distribution aussi des Indiens, des médecins dans le système de santé. Tout ça fait qu'il y a un manque de médecins, un manque d'infirmières, et donc des lois d'immigration qui sont conçues pour compenser ce manque. Et puis même après des questions de politique étrangère, le lancement du Sputnik russe a eu aussi un effet d'angoisse pour les Américains qui ont voulu après développer enfin l'industrie, l'ingénierie, etc. Et donc attirer beaucoup de migrants de l'extérieur. Alors ensuite, alors bien sûr, il y a aussi les facteurs qui ont poussé les Indiens à partir. C'est-à-dire, c'est quand même essentiellement un décalage entre le nombre de disproportion entre le nombre de diplômés et les possibilités de les absorber sur le marché du travail. Hein, voilà, ça fait partie de ça. Et puis, la discrimination positive aussi a joué un certain rôle, au sens où des hautes castes ont pu être incitées à émigrer aux États-Unis parce qu'elles n'obtenaient pas d'emploi en Inde, en raison de l'appétit des quotas, qui faisaient qu'elles pouvaient se sentir discriminées. Et donc, bon, aux États-Unis, hein, c'est quand même, en termes de caste, il existe des associations de Dalit, etc., mais c'est quand même une immigration de caste élevée. Hein, après, bon, la bureaucratie, etc. Hein, alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est aussi tous les facteurs sociaux, culturels, l'idée que l'immigration est attachée à des questions de prestige. Après, les récits qu'on peut faire dans les familles sur les États-Unis, la science de la télé, les romans, enfin voilà, hein, y a pas forcément que des dimensions économiques, les dimensions socio-culturelles sont également importantes. Et puis bon, c'est vrai qu'on a une vraie culture de l'immigration hein, quand même en Inde de plus en plus, qui fait qu'on n'émigre pas seulement parce qu'on a besoin, mais parce que ça fait partie de la culture. Hein, c'est juste pour répondre à des besoins économiques précis, hein, mais c'est aussi parce que. Voilà, tout le monde le fait, quoi. Et donc, alors on a noté que les femmes pouvaient jouer aussi un rôle dans l'émigration, en poussant leur mari à émigrer pour échapper, par exemple, en prison à la famille. C'est aussi des choses qui ont été notées. Et les Indiens ont globalement peu émigré pour des raisons politiques, hein, en étant une démocratie, sauf deux cas particuliers, les Sikhs et les Cachemiris, qui les Sikhs dans les années 80. Avec après un fort mouvement de revendication et de soutien au mouvement pour le Khalistan, dans les années 80 et les années 90, et les Cachemiris, les Hindous du Cachemire en particulier, qui ont fui le Cachemire et se sont émigrés aux États-Unis notamment. Alors, les Pakistanais, eux, ont émigré davantage pour des raisons politiques, plus que les Indiens, les Ahmadiyya notamment. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu. De cette université. C'est une université qui a été déclarée non musulmane en 1994 par Bhutto. Et depuis, les Ahmadiyya sont en vue de la désertification au Pakistan. Et comme comme c'est un groupe de personnes souvent instruites, urbanisées, etc., ben, ils font partie des gens qui ont émigré également aux États-Unis. Après, bon, il y a eu aussi on a parlé des Mouhajirs là, aussi. Hein, il y a eu aussi beaucoup une période de violence avec les Sindhis. Voilà. Et puis, bon, les Bangladeshis, fuyant la guerre civile en 71, les périodes de dictature militaire, etc. Donc, pour les Pakistanais et les Bangladeshis, les facteurs politiques sont un peu plus importants que pour les. Même si les facteurs économiques restent les raisons essentielles, c'est un peu plus important que pour les Indiens. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Certains l'ont, mais en fait, beaucoup non. Mais ils ont quitté, ils ont quitté de façon. Il y a une coïncidence entre une situation politique difficile localement et un désir après aussi économique de voilà. Mais ils n'ont pas spécialement le statut de. Alors, pour les sites, à un moment, ont essayé, certains sites ont pu l'avoir, le statut. Et les Cachemiris aussi, mais ça reste quand même avant tout hein, des immigrations économiques. C'est pas du tout ça qui c'est pas ça, du tout ça qui domine. Alors, d'un point de vue économique, hein, avant d'arriver à Jackson Heights, La période contemporaine se subdivise elle-même en trois phases. Je distingue les années 60-70, les années 80-90, et à partir de la moitié des années 90 à aujourd'hui à peu près, mais bon, après il y a le post-11 septembre, mais bon. Et puis bien sûr, il y a des chevauchements entre ces périodes. Alors, donc on s'aperçoit, donc on a peu de chiffres hein, pour les Pakistanais et les Bangladeshis, on en a plus pour les Indiens, pour les raisons que je vous ai expliquées. Les Indiens qui ont immigré aux États-Unis dans les années 70 comprenaient essentiellement des membres des professions libérales, des médecins en particulier, 30% par exemple, Binod Kapelia avance le chiffre de 30% de médecins, 40% d'ingénieurs, hein, ça fait quand même très élevé, hein, ça fait un profil très particulier, pas mal de scientifiques, d'enseignants, d'hommes d'affaires, etc. Et en fait, c'est parce que ils sont arrivés à partir de la troisième catégorie de visa attribuée par la loi de 1965, qui stipule « membre de profession exigeant une compétence exceptionnelle ». Et donc, c'est une catégorie spéciale qui a fait que beaucoup de médecins, de nationaux également, d'ingénieurs, ont émigré aux États-Unis. Hein. Ce sont donc les lois d'immigration qui expliquent ce profil particulier. Alors, les Pakistanais et les Bangladeshis qui ont émigré à cette époque présentent aussi des profils assez, assez similaires, hein, de scientifiques, d'ingénieurs, de médecins. Et même si la majorité des hommes qui ont, des personnes qui ont émigré en vertu de leur qualification sont des hommes, les femmes aussi, beaucoup de femmes aussi dans cette période-là, ont un statut, enfin, sont elles-mêmes instruites. Et peuvent bénéficier d'un. Voilà, et enfin, et occuper des emplois aussi, école maritime, etc. Voilà. Alors, après, il s'est produit une deuxième vague dans les années 80 et la moitié des années 90, durant laquelle beaucoup d'Indiens sont entrés aux États-Unis grâce à la politique de réunification familiale. Et du coup, ceux-là sont moins qualifiés. Ils n'ont pas eu forcément à montrer qu'ils étaient qualifiés pour immigrer. Et du coup, on a pu parler d'une mobilité décroissante concernant les Indiens aux États-Unis. Mais je reviendrai sur cette vague parce que ça enchaînera avec Jackson Heights et le quartier. Mais avant, il y a une troisième vague au milieu des années 90, qui est numériquement très importante, et grâce à l'augmentation des fameux H-1B visas octroyés par les Américains. Donc, ce sont des centaines de milliers d'Indiens qui sont émigrés à cette époque, à partir de la moitié des années 90, en quelques années. Et c'est donc la fameuse migration des informaticiens de la Silicon Valley. Hein. C'est une migration plus récente, plus mobile, qui circule davantage, alors que beaucoup d'immigrants des années 60-70, même 80, ont eu tendance à rester plutôt aux États-Unis, hein, alors que cela circule davantage. Alors, d'après le recensement de 2000, pour vous donner une idée, les Indiens représentent la communauté aux États-Unis avec le nombre le plus élevé de détenteurs de licence, de ceux qui ont une licence, 64% en 2000 avaient au moins le niveau licence. Et le revenu moyen annuel s'élevait en 2000 à 62 000 dollars, ce qui représente le double du revenu annuel moyen d'une famille américaine. Hein, Alors, en même temps, il ne faut pas non plus brosser un tableau trop idyllique des Indiens et des Sud-Asiatiques en général aux États-Unis. Bon, on a pu parler de mobilité décroissante, mais il existe aussi des populations qui sont vraiment reléguées au bas de la chaîne sociale, qui sont en mobilité décroissante et qui se retrouvent dans des emplois modestes, mal payés, de chauffeurs de taxi, de vendeurs de journaux, de plongeurs, de serveurs de restaurants, d'ouvriers, etc. C'est aussi une population dont il faut tenir compte, évidemment. Et parmi ces immigrants, certains ont fait des études supérieures en Inde. Ils peuvent avoir, par exemple, je sais pas, une licence d'histoire, une maîtrise d'anglais, etc. Mais ce ne sont pas des diplômes qui sont reconnus aux États-Unis. Et en fait, souvent, les Indiens qui émigrent aux États-Unis sont obligés de faire, au moins en partie, de refaire leurs études. Et on voit des médecins refaire des années d'études après avoir fait déjà plusieurs années en Inde. Bon, ils sont prêts à le faire, mais bon, il y a des gens qui ont voilà, une licence, une maîtrise d'histoire, etc. C'est pas, pas la même chose. Et donc, ceux-là peuvent se retrouver dans des situations assez difficiles, plus des personnes qui, arrivant ben, déjà, n'étaient pas spécialement instruites, etc. Voilà. Et donc, certains d'entre eux ont été contraints d'accepter des emplois qui n'étaient pas à la hauteur de leur qualification. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains de ces emplois sont symptomatiques d'un fonctionnement en réseau. On le voit notamment à New York, qui se caractérise par un marché ethnique très segmenté. Et là, on a un nombre très important de chauffeurs de taxi. On les estime à 10 000. Et de marchands de journaux qui sont sud-asiatiques. Et pas seulement indiens, qui sont sud-asiatiques. Donc, beaucoup de chauffeurs de taxi, beaucoup de marchands de journaux. Et un autre exemple intéressant, hein, qui est dans le réseau, c'est l'hôtellerie. Une présence massive d'Indiens dans l'hôtellerie, et en particulier dans les motels tenus par des Gujaratis, c'est l'image épinale, mais c'est assez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression. C'est assez impressionnant. Et les chiffres qui circulent, en fait, c'est tellement énorme que bon, c'est que 40. Alors, je vous donne le chiffre, hein, sont donnés par les Bougeratis eux-mêmes, donc je ne sais pas très bien, je faisais d'enquête. Mais 42% des hôtels et motels aux États-Unis seraient possédés par des Bougeratis. Hein. Système de franchise, etc. C'est quand même, en tout cas, leur présence dans l'hôtellerie est massive, ça c'est sûr. Hein, et surtout dans la motellerie. Voilà. Donc, je reviens sur la deuxième vague, qui va me permettre d'enchaîner sur le quartier dont je voulais vous parler. Dans les années 80 et 90, le profil, donc, s'est quelque peu modifié. Les immigrants étant généralement moins qualifiés que leurs prédécesseurs. Et donc, comme beaucoup ont émigré en vertu de leur... de la réunification familiale, ils n'ont pas eu forcément à prouver, à présenter des justificatifs universitaires professionnels. Alors d'autre part, on observe aussi que certains immigrants qui sont arrivés dans les années 60-70, des ingénieurs, des scientifiques, n'ont pas forcément trouvé un travail à la hauteur de leur qualification. C'est-à-dire qu'ils ont souvent vu leur niveau de responsabilité baisser par rapport à ce qu'il était en Inde ou au Pakistan. Or, ce sont des immigrants qui ne sont pas venus pour fuir la pauvreté, mais pour améliorer leur statut social. Et donc, là, ils se sont retrouvés dans une situation où leur statut social diminue à cause de l'immigration. Alors, d'autre part, il y a le problème de la discrimination sur le lieu de travail. Généralement, il n'y a pas de difficulté majeure au moment de l'embauche, mais au moment des attributions de promotion, etc., là, une discrimination peut faire une espèce de ceiling, hein, de plafond, qui fait que souvent les Sud-Asiatiques, comme les autres immigrants, sont proportionnellement sous-représentés dans les postes de direction et de décision. Donc ça veut dire une certaine frustration parmi les immigrants qui ont dû travailler dur comme étudiants, etc., acquérir plus de diplômes que les Américains pour décrocher le même emploi. Alors le résultat, c'est qu'un certain nombre de ces individus vont se lancer dans les affaires. Parce que, voilà, il y a un profil différent dans les années 80-90. Il y a une discrimination, etc., une baisse de statut social pour les ingénieurs, les scientifiques, des managers. Et donc, un certain nombre de ces individus vont se lancer dans les affaires. Et cette évolution coïncide donc avec l'arrivée de nouveaux migrants moins qualifiés. Et c'est intéressant de voir les aides entre apportées par les anciens migrants aux migrants moins qualifiés pour se lancer ensuite dans le monde des affaires. Affaires signifiant essentiellement des compagnies d'assurance, des banques, restauration, hôtellerie, agences de voyage, petits commerces, etc. Hein, en particulier, bon, alimentation, produits ethniques, cassettes audio, vidéo, comme à Paris, etc. Alors, on constate que lorsqu'ils se lancent dans les affaires, les anciens membres des professions libérales bénéficient de deux atouts. D'abord, ils ont un capital initial qui provient du travail à temps plein qu'ils ont effectué auparavant. Et d'autre part, leur niveau d'éducation leur permet d'être conscients des opportunités d'investissement et des ressorts du monde des affaires aux États-Unis. Et pour ceux qui sont arrivés au titre de la réunification familiale, l'aide du premier groupe de migrants est souvent déterminante. Donc là, j'en viens vraiment à la ville de New York, qui a le nombre le plus élevé de commerces d'asiatiques dans le pays. Hein, c'est la ville avec le plus grand nombre de commerces d'asiatiques, et qui est un exemple particulièrement intéressant de business ethnique, entre guillemets, établi par les Sud-Asiatiques. Et par business ethnique, j'entends des commerces ou des agences tenus par des Sud-Asiatiques et dépendants de populations Sud-Asiatiques qui fournissent la majorité des clients. Hein. C'est ça le. Voilà, c'est ça que j'entends par business ethnique. Donc, si on prend l'exemple de New York, dans les années 60-70, les commerces sud-asiatiques sont très limités. C'est-à-dire que les commerçants sont éparpillés à peu près dans la ville. Ils font beaucoup d'import-export avec le restaurant. Mais il y a peu de magasins spécialisés dans les produits ethniques. Ce sont des activités qui sont plutôt à Manhattan, hein, plutôt que dans les autres boroughs, les autres comtés ou enfin quartiers de New York. Alors depuis, les vagues continues d'immigration ont vraiment transformé la taille et la nature de ces commerces, avec une émergence des compagnies d'assurance, des agences de voyage, des magasins de vêtements, d'électronique, etc. Et les activités ont cessé d'être concentrées à Manhattan et se sont éparpillées dans le reste de la ville. Alors juste bon, comme ça, à titre indicatif, même à Manhattan, on a certains quartiers avec une petite concentration on a un lieu défilé de commerce asiatique. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, entre la 30e et la 40e rue, hein, du côté de Broadway, des magasins de vêtements comme ça qui s'alignent, des magasins de diamants, pour ceux qui sont intéressés, entre la 46e et la 49e rue, et au niveau de la 5e, 6e avenue. Et puis, il y a un petit quartier qui, informellement, je précise informellement parce que c'est important pour la suite, informellement connu sous le nom de Little India. Qui se trouve au niveau de la Lexington Avenue. Voilà. Mais Little India, ça ne veut pas dire une concentration de Sud-Asiatiques ou d'Indiens en termes d'habitat. Hein. C'est une concentration donc, de petits commerces dans un secteur assez délimité hein, de Lexington Avenue entre la 28e et 29e rue. Voilà. Mais le quartier vraiment le plus connu aux États-Unis est aussi connu dans le monde, par la diaspora indienne. C'est celui de Jackson Heights. Au niveau de la. Voilà. Et donc, on a des milliers de Sud-Asiatiques. Je vais revenir sur la constitution de ce quartier, hein. Des milliers de Sud-Asiatiques qui vont chaque semaine, en venant parfois de loin. Alors le cœur du quartier se situe au niveau de la 74e rue, hein, et petit à petit s'est étendu entre la 70e et 78e rue. Et la 74e rue a été rebaptisée Kalpana Chawla, vous voyez qui c'est le. Voilà, indienne qui est morte après l'explosion de la navette Columbia. Hein, donc en hommage à elle, la 114e rue a été rebaptisée Kalpana Chawla. Alors ça, c'est vrai que je l'ai pas vue, hein, mais ce qui se passe, c'est que souvent, c'est que la 114e rue reste, et en bas, il y a aussi il peut y avoir des appellations parallèles, hein, qu'on observe. Alors, donc l'évolution de ce quartier est vraiment intéressante. Le premier magasin a ouvert en 1976 et s'appelle Farm and Ranch.
donc tout pour les magasins 1976, c'était Sam and Raj. Et du nom de Subhaj Kapadia, c'est lui qui est devenu Sam. Et Raj, qui est resté Raj, Bandi. Il s'est fait faire Bandi quand même, hein, le magasin.
Et donc, Subhaj Kapadia et Raj Gandhi sont deux amis ingénieurs qui travaillaient dans une... C'est pour ça que je vous ai situé un peu le profil avant. Deux amis ingénieurs qui travaillent dans une entreprise américaine. Après 5 ans, ils sont licenciés. Et ils ont décidé de démarrer ensemble un magasin d'électronique et d'appareils électriques et ménagers. En 73, ils vont ouvrir d'abord un magasin à Manhattan. Mais bon, ils n'arrivent pas à renouveler le bail, parce que Manhattan est très cher. Et donc, ils vont se rabattre sur Queens, dont les prix sont beaucoup plus abordables, et ouvrir un nouveau magasin dans le quartier donc de Jackson Heights, et là, connaître le succès. Alors, lorsqu'ils travaillaient dans l'entreprise américaine, ils avaient économisé... vous avez vraiment... Hein, là, pour ce quartier-là, je m'inspire de l'article...
qu'elle a publié dans le livre de Van der Veer, Nation and Migration.
Quand ils travaillaient donc dans l'entreprise américaine, ils ont économisé beaucoup d'argent. Ils ont ensuite reçu le soutien de la famille et des amis pour pouvoir ouvrir ce magasin. Ils affirment qu'ils n'ont pas contracté d'emprunt auprès de la banque. Et tous deux appartiennent à des familles ou de la team marchande de Bombay. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus, ça vient pas non plus comme ça. Hein. C'est aussi une tradition familiale de marchande de Bombay. Et cela leur a été utile quand ils se sont lancés dans les affaires. Alors, bon, il y en a l'un des deux après s'est lancé dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Subhaj Kapadia, qui est resté dans ce magasin, le capital économique, après ce succès, s'est transformé en capital symbolique, avec une récompense reçue de la main du gouverneur pour sa contribution à l'avancement des populations asiatiques aux États-Unis. Hein, c'est des figures, dans Queens, à New York, sont des figures un peu clés, hein, c'est pour ça que je détaille. Et donc, à la fin des années 70, face à ce succès de ce magasin, ils sont rejoints par d'autres Sud-Asiatiques qui ouvrent à leur tour dans le quartier magasin et restaurant, souvent sur le même principe, sauf que certains ont dû vendre leurs bijoux avant de pouvoir démarrer leur commerce. Et d'ailleurs, c'est un quartier qui est plein de bijouteries, tout comme la plupart des autres quartiers indiens à travers le monde. Mais bon, là, on voit que dans la diaspora aussi, hein, tout comme dans ce continent, l'achat de bijoux est perçu comme un investissement sûr. Donc Jackson Heights a connu une ascension fulgurante. Donc il y avait un magasin en 76. Dans les années 90, on y répertoriait une centaine de magasins. Hein, ça, c'est vraiment l'inflation, hein, l'exponentiel du nombre de magasins. Et aujourd'hui, d'après un journal, letterindia.com, on estime le nombre de magasins à 200, parmi lesquels 20 restaurants, 9 magasins de sucreries, pas moins d'une trentaine de bijouteries. Voilà, mais concentré vraiment, hein, c'est très très concentré, hein, c'est sur quelques blocs comme ça. Bon, il y a aussi les compagnies d'assurance, les magasins de vêtements, de cassettes, enfin vous voyez comment sont les quartiers. Voilà. Et ce sont des magasins qui sont donc tenus non seulement par les Indiens, mais aussi par les Pakistanais et les Bangladeshis. Je reviendrai là-dessus. Et donc, l'expansion de ce quartier a vraiment coïncidé avec la croissance démographique des Sud-Asiatiques aux États-Unis. Hein, c'est vraiment une coïncidence entre un quartier qui se développe et une croissance démographique. Si l'on considère la répartition des Indiens par type de travail, d'abord il y a les propriétaires de magasins. Beaucoup sont d'anciens membres des professions libérales reconvertis dans les affaires. Et ensuite, comme Jackson Heights est devenu un centre commercial majeur, des familles traditionnellement marchandes se sont intéressées à ce quartier et s'y sont installées. Avec souvent des filiales ailleurs qu'aux États-Unis, dans d'autres pays du monde, etc. Il y a des bijoutiers, des diamantaires qui comptent des Jane, des Marvali, du Rajasthan, des Gujarati, etc. Avec tout un système de réseau qui couvre les États-Unis, l'Afrique orientale, l'Angleterre, l'Extrême-Orient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces propriétaires n'habitent pas Jackson Heights. Hein, ils sont plutôt dans les banlieues résidentielles américaines, hein, en particulier ceux qui ont des business florissants. Et donc, Jackson Heights a avant tout un caractère de centre commercial. Il ne s'est pas transformé en enclave ethnique. Hein, c'est avant tout des commerces, un quartier commercial. De façon générale, il n'y a pas aux États-Unis des concentrations d'Indiens. Bon, il y en a dans quelques quartiers de Queens, par exemple, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas quelque chose de similaire à Chinatown, par exemple, ou à certains quartiers hispaniques. Hein, il y a certaines concentrations ici et là, mais pas de la dimension qui fasse vraiment. Comme Chinatown, par exemple. Alors, les propriétaires emploient d'autres Indiens, comme assistants, comme vendeurs, etc. Et la clientèle est bien sûr aussi majoritairement sud-asiatique. À la fin des années 90, on estimait à peu près à 10 000 le nombre de personnes qui faisaient leurs courses, qui venaient faire leurs courses hebdomadairement à Jackson Heights. Et ce sont des personnes alors, qui viennent non seulement de New York, mais également des États voisins, New Jersey, Connecticut, et même de plus loin, Massachusetts, Caroline du Nord, Virginie, etc. Hein, c'est l'attractivité de ce quartier avec une atmosphère de bazar du sous-continent, même que la neige, hein, j'ai pu le constater. Alors que dans le quartier de Manhattan, là, la clientèle est beaucoup plus diversifiée. Hein, c'est pas le même profil. Hein. Jackson Heights, c'est vraiment la clientèle essentiellement sud-asiatique. Manhattan, c'est peut-être des blancs, entre guillemets, et d'autres populations. Alors, ça ne présente pas forcément, c'est pas très original par rapport à la situation en France, mais c'est sur la question ethnique, ici au sens de national, que se fait la différence. Car en France, quand même, les Tamouls de Sri Lanka et de l'Inde, d'une part, et les Pakistanais, d'autre part, ont établi des quartiers assez différenciés, hein, entre la Chapelle, Gare de l'Est, etc. À Jackson Heights, on trouve vraiment des commerces tenus par des Indiens, par des Pakistanais, par des Bangladeshis, et des enseignes du genre Indo Pak Bangla. Hein, je pense que l'objectif n'est pas vraiment le plus limite, hein, c'est vraiment pour attirer le plus de personnes possibles, hein, de clients possibles. Les Pakistanais, par exemple, s'associent aux soldes durant Holi et Diwali. D'autre part, pour ce qui est des produits vendus dans les épiceries, on trouve des ingrédients de toutes les régions de l'Inde. Et dans les magasins, des films de plusieurs en langue diverse, hein, pas seulement des films hindi ou en particulier, mais voilà. Donc c'est un peu comme le quartier de Wembley à Londres. Un exemple amusant, c'est un restaurateur indien qui possède deux restaurants, l'un spécialisé dans la cuisine du Nord et l'autre dans la cuisine du Sud. Alors, cette concentration des commerces sud-asiatiques n'a pas suscité l'enthousiasme de tout le monde. Hein, et les Américains blancs, entre guillemets, n'ont pas vu d'un très bon œil cette présence assez massive sud-asiatique. Et donc, il y a eu tout un mouvement qui s'est formé, la Jackson Heights Beautification Group, pour la protection l'embellissement du quartier. les processus de discussion, etc. Mais bon, aujourd'hui, le quartier est tellement établi, étendu, etc., que il fait partie du paysage, que ce type de protestation paraît dépassé. Hein, c'est voir l'évolution dans le temps. Alors, face au succès de Jackson Heights, qui est informellement connu, alors il est informellement connu sous le nom donc, de Jackson Heights. Alors, des voix après se sont élevées, demandant qu'on rebaptise officiellement le quartier Little India, mais de façon officielle. Bon, ce projet n'a pas abouti, mais il est vraiment intéressant parce que justement les arguments des uns et des autres sont symptomatiques de cette articulation entre intégration, visibilité, etc. Alors, pour les partisans de ce projet, en rebaptisant officiellement ce quartier Little India, sur le modèle de Chinatown de Little Italy, cela permettait d'attirer des touristes et donc de s'attirer davantage de clients encore, tout en marquant officiellement sa présence sur le territoire dans le paysage ethnique américain. Hein, c'est cette double combinaison. Alors il y a diverses propositions qui ont été avancées, construire à l'entrée du quartier une sorte d'arche évoquant vaguement le Taj Mahal, voilà. Donc, on a ici un exemple de revendication d'une visibilité dont l'enjeu est à la fois économique, s'attirer plus de clients, et partiellement identitaire, hein, c'est-à-dire être accepté par la société d'accueil avec ses spécificités. Mais bon, je rappelle hein, qu'il faut tenir compte du fait que la société américaine a un régime de citoyenneté spécifique qui accorde de la place aux identifications multiples. Mais en même temps, la situation n'est pas si simple, puisque cette idée a rencontré une forte opposition. La majorité des commerçants estimant qu'un changement de nom officiel présentait le risque de donner aux Américains l'image d'une communauté ghettoïsée. Donc il y a eu vraiment ces deux discussions. Enfin, entre les uns, ça leur permettait de se donner d'exister dans le paysage ethnique et d'avoir plus de clients, et les autres, qui l'ont emporté, ça risque de donner l'image d'une communauté ghettoïsée en ayant un nom officiellement de Little India. Alors, reste que ce type de quartier engendre une visibilité de fait, même si elle n'est pas officiellement formalisée par un nom distinct, et qui renvoie à une communauté particulière, et qui bien est symbolise bien l'existence d'un espace ethnique distinct. Alors, il faut même voir aussi hein, qui se sont mobilisés pour rebaptiser le quartier d'Inaret. Voilà. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a eu aussi quelques rares voix qui se sont prononcées en faveur d'un Little South Asia, plutôt que Little India, pour tenir compte enfin, des noms indiens. Voilà. Et ça, c'est le type de revendication qui s'inscrit dans la logique de la politique of space, hein, comme pour reprendre l'expression de Van der Veer, incluant des intérêts convergents et divergents selon les cas. Éventuellement une concurrence d'intérêts, des revendications concurrentielles, et on a vraiment une illustration intéressante de la question du rapport à l'autre. L'autre sud-asiatique, l'autre américain, l'autre, etc. Hein, c'est à travers ces noms, à travers cet espace, c'est question de rapport à l'autre. Alors, il existe à New York quand même un quartier à Brooklyn, qui est exclusivement dominé par les Pakistanais, voilà, et qui se situe plus précisément à Coney Island, pour ceux qui connaissent Brooklyn. Donc, ils sont en fait un bloc du quartier juif qui est de ce côté-là, et eux se trouvent, ils sont voisins en fait. Et là, il y a une centaine de petits commerces ici à Lynn, tous pakistanais. En tout cas quand je l'ai visité. Hein. Et la première épicerie pakistanaise a été créée en 1984 par un certain Abbas Rizvi, que j'avais interviewé, hein, et qui n'appréciait pas que ce soit une boutique tenue par des hindous qui vendent par des dizaines d'autres Pakistanais. Et la clientèle aussi se compose massivement de Pakistanais. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Coney Island, c'est que ce quartier, en comparaison à Jackson Heights, c'est que ce quartier n'abrite pas seulement des commerces pakistanais, mais également des populations pakistanaises. Alors, ce sont essentiellement des Panjabis de la classe ouvrière qui peuvent travailler ailleurs comme pompistes, chauffeurs de taxi, etc. Donc en fait, Coney Island se distingue de Jackson Heights d'au moins trois façons. Par une homogénéité ethno-nationale, hein, puisque c'est vraiment des Pakistanais, il n'y a pas d'Indiens de Bangladeshi. Par la composition sociale, beaucoup d'ouvriers qui habitent. Et par le caractère de quartier aussi bien résident que commerçant. Mais sans chevauchement systématique entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui travaillent comme commerçants n'y habitent pas forcément, et ceux qui y vivent n'y travaillent pas forcément. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément de chevauchement, mais ça fait quand même un quartier où des populations peuvent habiter et des populations peuvent, du même groupe, peuvent travailler. Et donc, ce qui fait que Coney Island représente une forme d'enclave ethnique. Et cette ethnicisation du quartier, au sens donc de caractère d'enclave ethnique, donne une visibilité à Coney Island qui peut être préjudiciable en situation de crise. Par exemple, Coney Island a été particulièrement victime de discrimination, elle a subi de discrimination après le 11 septembre, des politiques discriminatoires après le 11 septembre. C'est un quartier qui a beaucoup souffert des répercussions du 11 septembre avec des visites fréquentes du FBI, des arrestations de familles, d'individus qui, bon, généralement n'avaient absolument rien à voir avec les attentats, mais qui pouvaient être en situation irrégulière, etc. Hein, donc c'est une... voilà, et donc beaucoup se sont retrouvés expulsés. Certains se sont exilés au Canada, d'autres en Europe, certains sont au Pakistan, mais il y a eu vraiment, après le 11 septembre, une visibilisation par défaut vraiment complètement involontaire de ce quartier. Plusieurs commerces sont fermés et il semblerait, une fois que ce soit averti par un nouveau terrain, je ne sais pas où on est depuis longtemps à Coney Island, il a perdu son caractère un peu d'enclave pakistanaise. C'est-à-dire qu'il y a eu des commerces pakistanais ont pu être remplacés par des commerces rachetés par d'autres groupes internationaux. Donc on a une situation de crise qui redéfinit les rapports, sinon entre les groupes, du moins entre l'état d'accueil, qui va se retrouver en confrontation avec les groupes d'immigrants, donc une redéfinition de la politique of space en situation de crise. Donc c'est une situation qui rappelle la visibilité accord défendant des sites du début du siècle. Ce n'est pas une visibilité recherchée, c'est une visibilité imposée par une situation particulière et en conflit ici avec l'intégration. Hein, c'est, voilà. Et donc, j'ai presque fini. Hein, donc, je passe rapidement avant de conclure, aux parades ethniques. Alors, vous savez peut-être qu'il y a une tradition aux États-Unis de ces parades ethniques. C'est-à-dire que chaque groupe, enfin en tout cas un certain nombre de groupes les plus proéminents, ont leur propre défilé dans New York. Des défilés qui sont censés symboliser la fierté ethnique, ethnic pride, et qui sont une auto-affirmation d'un groupe ethnique ou religieux. Et donc, il y a des parades irlandaises, il y a des parades cubaines, il y a des parades portoricaines, des parades, et maintenant, des parades, une parade indienne, une parade pakistanaise, qui coïncide plus ou moins avec la date d'indépendance des deux pays. Et depuis quelques années, il y a même une parade islamique, Muslim Rose Parade, et une parade sikh, hein, qui, pour des raisons politiques, les sikhs sont séparés des Indiens et ont créé leur propre parade. Voilà. Alors, ces parades sont bien sûr l'incarnation même de la volonté de visibilité. Au-delà de la manifestation culturelle, elles ont des fonctions variables, à la fois exogènes et endogènes. Endogène, il s'agit en fait vraiment de manifester de façon ostentatoire son unité, de façon à mieux masquer les dissensions internes. Donc c'est très important de faire montrer que le groupe des Indiens, le groupe des Portoricains forment une unité, etc. Et on le marque voilà, de façon assez ostentatoire en défilant tous ensemble. Et exogène, où il s'agit de manifester de façon encore ostentatoire son existence en tant que groupe ethnique à part entière dans la vaste mosaïque américaine. Hein, c'était aussi un message adressé aux Américains d'existence à la société d'accueil, d'existence, enfin au reste des Américains, à ces accueils, d'existence en tant que groupe à part entière dans la vaste mosaïque américaine. Et un important indicateur de la visibilité d'un groupe, visibilité ici au sens de relation de pouvoir, c'est l'avenue que le maire assigne à chaque groupe. C'est-à-dire que l'avenue la plus prestigieuse, c'est la 5e avenue. Et elle est réservée aux anciens groupes de migrants, les Irlandais, les Grecs, les Italiens, etc., qui décident sur la 5e avenue, tandis que des groupes plus récents, comme les Indiens ou les Pakistanais, vont décider sur la Lexington, par exemple, ou sur une autre avenue. Mais là, il y a une concurrence, hein, mais c'est aussi, ça peut faire partie du lobbying, être dans l'avenue la plus prestigieuse, etc. Donc, et puis bon, les paratransfuges sont très intéressantes aussi, hein, en termes de justement du rapport à l'autre, à l'intérieur à l'intérieur même du groupe, où, par exemple, il y a des années où, l'année où j'avais suivi cette parade, les Sikhs avaient boycotté, les musulmans avaient boycotté, les indiens aussi avaient boycotté en raison de la destruction de la mosquée d'Ayodhya. Mais il peut y avoir des Pakistanais qui étaient là, parce que la parade indienne, il y a toujours un acteur de Bollywood qui dirige, qui mène la parade, et donc les Sud-Asiatiques de toute façon arrivent aussi. Et dans la parade pakistanaise, c'est l'année où Nusrat Fateh Ali Khan était invité, donc il y a des Indiens qui étaient là aussi. Voilà. Et puis après, d'autres années, les Sikhs reviennent, parce que la situation est meilleure, enfin, les relations sont meilleures avec les hindous et avec le gouvernement indien, etc. Hein, c'est vraiment des parades symptomatiques des relations intercommunautaires dans le groupe et vis-à-vis de la société d'accueil. Hein, voilà. Alors donc, en conclusion, on observe en contexte diasporique et minoritaire des visibilités vraiment à géométrie variable qui sont tantôt choisies et assumées, comme le montrent les revendications pour une catégorie à part dans le recensement, des revendications, même si elles sont avortées, pour avoir un quartier renommé l'État indien, des paradis ethniques, etc. Mais ces visibilités choisies et assumées ne sont pas incompatibles, au contraire même, avec la volonté d'acceptation de la société américaine. Hein, c'est ça qui est... voilà, hein, c'est pas du tout incompatible. Il s'agit d'être visible pour exister, et d'être visible aussi pour des raisons économiques toutes simples, voilà. Et ces visibilités sont tantôt imposées et contraignantes, avec des populations qui sont sous le feu des projecteurs, qui sont propulsées malgré elles dans la sphère publique, surtout en situation de crise, avec cette fois-ci des implications préjudiciables, délétères, sur leur relation à la société d'accueil et une remise en cause de leur acceptation de leur intégration à la société d'accueil. Voilà, je m'arrêterai là. Alors, j'avais des photos.